J'aimerais que nous gardions présent l'esprit, présente à l'esprit les paroles que nous avons chantées en fin de cantique, aussi bien celui-ci, le 102, « Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur, prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. » Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Et la strophe précédente, dans l'ordre des chants, dans celui qui commence par « Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché », la dernière strophe, c'est « Et alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir. » Gardons donc, présente donc les paroles de ces cantiques et abordons un sujet que je ne terminerai pas aujourd'hui. La rentrée est faite. Nos têtes blondes, et c'est vrai pour la famille Guichard, sont au travail, je ne sais pas pourquoi on dit les têtes blondes, honnêtement. Elles sont au travail, du moins on peut l'espérer. Leur prof aussi. Le rythme, activité, repos, nous est imposé, et cela depuis la création. 6 jours, un jour. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Le sabbat, qui était le 7e jour, a été, depuis la naissance du christianisme, remplacé par le dimanche, le 1er jour. Vraiment, toutes choses sont changées. Vous voyez, on commence par se reposer, on travaille après. Puis, suprême victoire de la classe ouvrière, les grèves de 36-38, 1900, bien sûr. On a acquis le droit au congé payé. C'est assez récent, vous voyez. Ainsi, existent les vacances qu'on n'a plus besoin de présenter. Mais cette période, légale d'arrêt de travail, a reçu un mot qui vient de vacances au singulier. Et la vacance au singulier, c'est la situation d'une place, d'une charge, d'une fonction momentanément dépourvue de titulaire. Il y a vacances de poste. Chose étant telle, alors nous allons passer d'un élève à l'autre, puisque nous le savons tous, mais avons tendance à l'oublier. Le mot élève vient du latin discipulus, qui a donné disciple. Ainsi, le disciple est un élève, pas nécessairement en vacances. D'ailleurs, on pourrait se poser la question si pour l'élève de Jésus-Christ, il peut y avoir des vacances ou une vacance. C'est comme si on disait, dans le domaine de la vie, pendant quelques semaines, on s'arrête de respirer, de manger, de faire ceci, de faire cela, pour pouvoir faire autre chose. Ça ne durerait pas longtemps. Nous avons dans la pratique perdu le sens du mot disciple. Dans le contexte biblique, il existe. mot est souvent répété, et nous pourrions le répéter et le remplacer par un autre. Dans nos Bibles françaises, le mot disciple ne se trouve que 4 fois dans l'Ancien Testament. Il se trouve, sauf erreur de ma part, plus de 250 fois dans le livre, dans les évangiles et les actes des apôtres. On ne le trouve pas dans les Épîtres. De l'Ancien Testament, je ne vais retenir qu'un passage, les autres se trouvant pour un cas dans le livre des Chroniques, au moment de la constitution des groupes de chants, où il est question de maîtres et de disciples, et les autres trois textes se trouvent dans Ésaïe. Et c'est dans ce livre d'Ésaïe que je retiendrai un passage qui pourrait, tel qu'il existe, être transposé dans le Nouveau Testament. Il est vrai qu'on appelait Ésaïe le cinquième évangile. Voici le texte dont je vous donne la référence, chapitre 50, versets 4 et 5 du livre d'Ésaïe. Accordez-moi la faveur de vous le lire dans une autre traduction. La Tôme. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. Deux points. Pour que je sache soulager l'affaibli, il fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. Nous reviendrons à ce texte tout à l'heure. Pour aborder très rapidement le Nouveau Testament, et plus rapidement surtout, par simple citation, de l'emploi de ce mot de disciple appliqué à ceux qui observent la loi de Moïse, on parle des disciples de Moïse, on parle aussi des disciples de Jean-Baptiste, ceux qui suivent Jean-Baptiste, et on parle des disciples des pharisiens. Mais cela représente peu de textes en comparaison de l'emploi abondant qui est fait pour les personnes en relation avec Jésus, dans une relation plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée, car au sens large du terme, on a donné le nom de disciple, surtout les pharisiens l'ont donné à la foule qui s'agglutinait autour de Jésus, qui chantait « Hosanna, gloire à Dieu » dans la montée de Jésus à Jérusalem. « Fais taire tes disciples !» Puis, dans le contexte de la multiplication des pains dans Jean 6, lorsque Jésus a nourri 5000 personnes. Dans la suite du texte, il est dit « Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Parce qu'il y a les paroles « Ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage, etc. » Qui peut entendre ces choses? Et ils sont partis. Était-ce des disciples? Certainement pas. Par contre, l'emploi alors le plus fréquent concerne les 12, ce cercle intime de Jésus, concerne la poignée de personnes qui le suivent et le soutiennent, concerne les 70 qui sont envoyés préparer le passage de Jésus dans les villes et les lieux qu'il devait visiter. Ainsi, Jésus est accompagné d'hommes et de femmes qui écoute ses paroles et qui s'en abreuve, si j'ose dire. Jésus apparaît, comme beaucoup d'autres de son temps, comme un véritable rabbi. Qu'est-ce qu'un rabbi ? C'est un docteur, c'est un maître, c'est celui qui enseigne. Jésus est un rabbi, et un rabbi parmi tant d'autres sur la terre de Palestine à cette époque. Mais était-il vraiment comme les autres ? De toute évidence, non. Car la foule elle-même saura faire le distinguo. La foule, nous dit le texte biblique, était frappée de son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Il y avait une différence entre les paroles de Jésus et les paroles des autres rabbis. Rabbi Jésus, le maître Jésus, avait cette parole pleine de sens, s'exprimant en particulier par des exigences qui étaient exorbitantes. C'était surprenant de l'entendre tout demander. C'est impressionnant. Impressionnant d'entendre cette voix dire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Bien sûr, encore plus impressionnant lorsqu'on lit la version littérale hébraïque telle qu'elle se présente. Si tu ne hais ton père ou ta mère, tu n'es pas digne de moi. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas dans le sens d'une haine implacable, destructrice, mais bien dans le sens d'aimer plus. Mais néanmoins, ces paroles sont là, et les gens vont vers lui. Il exige, et il y en a qui le suivent. D'autres, par contre, nous l'avons constaté, ne l'ont suivi que parce qu'ils ont vu en lui un thaumaturge, un faiseur de miracles, au crochet duquel, ils pouvaient vivre. N'est-il pas dit qu'après cette fameuse multiplication des pains, dans Jean 6, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ce genre de disciple, Jésus n'en voulait pas. Des crochets, des sangsues, des aspirateurs, des donnes, des politiciens de la main tendue, ce n'était pas ce que Jésus cherchait. Ceux-là n'ont pas tardé à le quitter. Ils avaient choisi Jésus, entre guillemets, pour l'intérêt qu'il représentait. Mais Jésus leur a glissé entre les doigts. Ça n'a pas marché. Il ne s'est pas prêté au jeu. Par contre, lorsque Jésus exprime ses exigences, nous constatons qu'elles sont au plan relationnel, au plan affectif, et qu'elles ont un caractère exclusif. Elles sont d'autant plus fortes qu'il est l'initiateur de la réponse. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Ce choix est déterminant et il s'exprime d'une façon saisissante dans ce que nous lisons. Au début des évangiles, cette parole adressée par Jésus à quelques pêcheurs du lac de Génézareth. Toi, suis-moi. Parole adressée aussi à d'autres, comme Matthieu, le péager. Toi, suis-moi. Viens derrière moi. Fais route avec moi. Accompagne-moi. S'il y a une parole d'autorité dans les évangiles, c'est bien celle-là, adressée à quelques individus qui vont se lever et répondre. En un clin d'œil, aussitôt, dit l'Écriture, ils laissent leur filet, ils laissent leurs emplois, ils laissent leur père, ils laissent leurs compagnons de travail, leurs outils, et ils lui envoient le pas. Cette parole et les effets qu'elle a eus ont été à l'origine de la conversion de ma mère. Assez curieux. Beaucoup rattachent leur conversion à la découverte de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ou bien à la découverte de leur état de pécheur. Qui me délivrera ? Ma mère est allée à la rencontre de Jésus alors qu'elle avait été engagée dans le parti du peuple à l'époque, qui était assez fort, parti dont elle s'était séparée lorsqu'il avait constaté qu'il était plutôt un parti de profiteurs qu'un parti du peuple. Et lisant le Nouveau Testament qu'on m'avait offert, que j'avais amené à la maison, elle avait été intriguée par cette parole. Qui est cet homme? Cet homme qui a le pouvoir de dire à quelqu'un, toi, suis-moi, et ce quelqu'un se lève et le suit. Et c'est ainsi qu'elle a découvert le sauveur de son âme. À partir de cette interpellation, elle a reconnu que seul Dieu pouvait avoir un verbe pareil. Et cet appel a été suivi par ces hommes, André, Simon, Jacques, Jean, Matthieu, Nathanaël et d'autres. Les premiers d'une longue liste inachevée dans laquelle doit se trouver votre propre nom, le mien. Si à notre tour, nous avons entendu cette invitation, pardon, cet ordre, toi, suis-moi, ce n'est pas une invitation. C'est un ordre impératif, il s'impose. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là quelque chose d'intéressant? Que le Fils de Dieu s'intéresse à des êtres humains et les invite à lui emboîter le pas. Retournons à Ésaïe. Je vais vous relire le texte, avec, disons, quelques titres qui présentent le texte un peu dans le désordre. Dieu dispose l'homme à l'entendre. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Il y a cette action préliminaire de Dieu. Lorsque Jacques, Jean, André, Simon, Matthieu ont entendu cette parole retentir, Dieu avait préparé leur être à l'entendre. Dieu, le Seigneur, Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas jeté en arrière. Moi-même, préparé par Dieu, je dois recevoir ce que Dieu me donne. Je dois l'accueillir. Ce qui fait que l'ordre donné va trouver chez moi la réponse adéquate. La réponse espérée, cette réponse, c'est à moi de la donner. le Seigneur. Aimez l'ordre. Je dois le recevoir 5 sur 5. Et je dois y répondre. Alors commence pour moi la vie du disciple. Une vie d'attention soutenue, régulière, d'un élève studieux. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples, pour que j'écoute, comme doivent écouter des élèves. Je n'ose pas dire comme écoutent les élèves. Quoique ayant eu des élèves dans les écoles, des clubs publics ou autres, j'ai bien vu que certains buvaient les paroles que je donnais et que d'autres étaient ailleurs, parfois très loin des sujets abordés. Mais si Dieu a ouvert mon oreille pour entendre, s'il a prédisposé mon cœur à répondre, il me faut me mettre à l'œuvre. Et matin après matin, je dois, ou il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute, se mettre à l'écoute de Dieu. Excusez du peu, mais Ésaïe n'hésite pas à dire matin après matin. Il est vrai que nous sommes tellement occupés que nos matinées démarrent avant même qu'on ait mis les pieds hors du lit. Peut-être serions-nous de grands bénéficiaires de l'œuvre divine si nous avancions notre réveil d'un quart d'heure ou d'une demi-heure pour les consacrer à Dieu. Plutôt que de le faire à la fin de la journée, lorsque la fatigue est telle que plus rien ne passe. Simple suggestion. Et voici que celui qui a eu l'oreille ouverte, qui a répondu à l'ordre, qui s'est mis à l'écoute de Dieu régulièrement, va recevoir un organe adapté. Et on passe de l'oreille à la langue. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple. Le Seigneur m'a donné cet organe qui va me permettre d'agir en ma qualité d'élève de Jésus-Christ pour, et c'est la dernière partie de ce passage, pour transmettre comme une résurgence de la parole entendue. Il m'a donné une langue de disciple, c'est-à-dire qu'il fait surgir une parole pour que je sache soulager l'affaibli. Quelle belle vocation! Que celle de celui qui se met à l'écoute de Dieu parce qu'il a reçu Dieu et qui va, en allant vers l'autre, lui apporter quelque chose de ceux qu'il a reçu, quelque chose qui vient de Dieu. Quel élève que celui qui peut parler des choses qu'il a entendues de la part de son maître. C'est à la rencontre du maître qu'il est allé pour être formé, pour être éduqué. Quelle satisfaction pour le maître d'entendre l'élève non pas répéter comme un magnétophone, mais s'exprimer selon les choses qu'il a entendues, reçues, assimilées, pour être prêt à les transmettre. Tel est ce passage d'Ésaïe 50. Ainsi, le Seigneur parle, appelle, et celui qui répond à l'appel, qui est le bénéficiaire de cette œuvre de Dieu, par l'action même de Dieu, devient un élève, mais un élève agissant. Un élève appelé à transmettre. Un élève qui devient relais. pour que par son moyen, quelque chose du message divin touche l'affaibli, touche celui qui est atteint dans son corps et dans son âme, touche le pécheur, touche celui qui est dans le besoin. Ce matin, j'ai entendu un début de chanson de Lucien Clerc. Ça m'a frappé compte tenu du fait que j'étais dans le sujet, non pas avec la radio allumée pendant que je préparais mon sujet, pas du tout, mais pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'écoutais les nouvelles et on a parlé de la fête de l'humanité et de Monsieur Julien Clerc qui va chanter à 5h cet après-midi à la fête de l'humain. Voici une parole qui aurait pour titre, je crois, « Bouger les pierres ». Je n'ai pas très bien compris la chose, mais j'ai aimé la première phrase, que je sors du contexte, bien entendu. « Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans vos oreilles. » Oh, si nous pouvions simplement, je dirais, le prendre comme cette invitation divine. Dieu veut le face-à-face avec nous. Dieu veut que son regard rencontre le nôtre, mais que nos oreilles perçoivent ses paroles. Dieu veut le nez l'autre. Qu'il est désagréable de parler à quelqu'un qui ne vous regarde pas, ou d'entendre quelqu'un qui regarde ailleurs quand il vous parle. N'éprouvez-vous pas un curieux sentiment? Vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui fuit, qui évite le contact, qui est mal dans sa peau, qui ne tient pas du tout à être vu de vous? Que pense le Seigneur? Lorsque s'adressant à nous, il constate que notre esprit est ailleurs, que nos yeux sont ailleurs, que nous écoutons peut-être d'une oreille attentive, ou que nous faisons semblant d'écouter, tout simplement. L'Éternel, dit le texte des Chroniques, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceci étant, je vais amorcer l'atterrissage. Pour m'envoler une autre fois, un autre jour, si Dieu le permet. Dans le même livre des Chroniques, un peu après cette promesse du parcours, du regard de Dieu pour soutenir ceux qui sont à lui, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quel beau passage que celui-là. Ils ont promené les regards et ils sont assaillis par une troupe nombreuse, par une multitude, quelque peu désespérée. Sans recours, sans solution, ils vont faire la belle démarche de fixer leur regard sur Dieu. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et je prolongerai cela avec les paroles du psaume 123. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de leur maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Attente du peuple de Dieu qui ne sait que faire. Bien-aimé, je vais peut-être paraître exigeant ces jours prochains. Je ne le serai pas plus que ne l'est le Seigneur, puisque je vous citerai les paroles de Dieu. Je n'ose pas vous poser la question si vous croyez à la parole du Seigneur. Je sais que vous allez me dire oui. révéler la qualité de notre foi. Nous risquons d'avoir des surprises. Je me permets de terminer avec cette parole qu'Élie donna à Samuel, Élie le sacrificateur donna au jeune Samuel qui ne savait pas trop ce qui se passait dans le temple lorsqu'il s'entendait appeler Samuel, Samuel. Et il a couru vers Élie et à la troisième reprise ou à la deuxième reprise, Élie lui dit, la prochaine fois que ça se produit, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que fit Samuel. Et il reçut un message de Dieu. Et plus tard, il est dit concernant ce Samuel, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Je vous invite à cette même réponse, à faire vôtre cette parole de Samuel, parce que Dieu parle, Dieu agit, et si vous avez une oreille d'élève, vous aurez une écoute d'élève, une écoute de disciple, et vous ne pouvez pas dire autre chose que parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, le Seigneur sera avec vous, et il vous donnera la force de ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles. Nous essaierons d'aller plus loin, Dieu voulant, la semaine prochaine. Vous pouvez prier pour cela. Et j'aimerais, dans le sens des paroles, des cantiques que nous avons chantées tout à l'heure, chanter d'autres peut-être. La semaine dernière, nous avons chanté ce difficile cantique. Vous savez, je chante très peu, dans lequel il y a un engagement personnel qui est très fort. Je ne le prends pas à la légère, je ne voudrais pas que nous le prenions à la légère. Je vous invite à reprendre